protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour à tous, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le mouvement protestant MEDER, une organisation humanitaire chrétienne qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées dans des contextes de conflits et de catastrophes, représentée par sa directrice en France, Annick Balocco. Bonjour Annick Balocco.
Bonjour.
Alors, on va commencer par quelque chose de très simple sur votre identité, enfin sur l'identité de votre mouvement. Est-ce que vous avez un slogan qui définit le mouvement?
Oui, en fait, MEDER, chaque vie compte. C'est vraiment une façon simple, je pense, de définir qui on est et la volonté de venir en aide aux personnes, où qu'elles soient, parce que leur vie a de la valeur à nos yeux et aux yeux de Dieu aussi.
Un verset biblique?
Alors, un verset biblique, oui. Alors, j'ai choisi un verset que tout le monde connaît dans le monde protestant et même plus large. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire, vu étranger et t'avons-nous recueilli, nu et t'avons-nous vêtu? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, j'ai choisi ce verset parce qu'il montre vraiment l'amour inconditionnel de Dieu, son attention à nos soins, à nos besoins vitaux. Voilà, et on parle de donner à manger, donner à boire, et voilà, c'est vraiment ce qui est au cœur de la vie de MEDER et de ce que font nos équipes tous les jours.
Merci pour ce beau rappel évangélique. Et vous-même, Annick Balocco, vous vous considérez comment? Donc, vous êtes directrice de MEDER, vous vous considérez comment par rapport au mouvement? Leader
Mais écoutez, j'ai le plaisir d'animer une petite équipe en France. On est 6 personnes qui travaillent en France. MEDER, c'est un mouvement international avec des équipes dans 14 pays, un siège international. Mais donc mon engagement, c'est surtout donc sur ce territoire français et d'animer notre équipe pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Et ce que ça veut dire concrètement, trouver des personnes qui vont travailler pour MEDER, trouver un soutien financier pour nos interventions et aussi trouver des personnes qui vont prier pour MEDER. Parce que ça, c'est aussi un volet qui est très important pour nous. Comme vous l'avez dit, on est une organisation chrétienne avec une dimension interconfessionnelle. Tous ceux qui choisissent de partir avec MEDER le font parce qu'on est une organisation chrétienne et qu'ils ont envie de vivre aussi cette dimension dans leur engagement. Et donc, ça veut dire que dans nos équipes, il y a une vie de prière, mais qu'il y a aussi des gens en dehors de nos équipes qui ont envie de nous soutenir de cette façon-là et qui prient régulièrement pour les défis auxquels on est confrontés et pour la protection de nos équipes, par exemple.
On va parler chiffres. Vous avez quelques chiffres importants à nous communiquer?
Alors, quelques chiffres. J'ai juste repris le nombre de personnes auxquelles MEDER est venu en aide l'année dernière, donc en 2024. Donc MEDER International, l'ensemble des programmes de MEDER sont venus en aide à 3,7 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'on est une ONG de taille moyenne. On n'est pas une énorme ONG, on n'est pas non plus une toute petite organisation. Et malgré tout, on reste peu connu en France, même dans les milieux chrétiens. Mais on est donc une organisation de taille moyenne qui a quand même un impact fort dans 14 pays.
Alors, votre singularité dans le secteur des œuvres protestantes, c'est quoi?
C'est l'aide d'urgence, en fait, je pense. c'est le fait d'intervenir dans des contextes extrêmement complexes, parce qu'il y a d'autres organisations de solidarité internationale. Et donc, dans notre identité, il y a vraiment l'aide d'urgence avec une équipe qui est prête à se mobiliser en 48 heures quand une crise survient dans le monde. C'est les crises oubliées aussi, parce qu'on reste présent dans des crises dont on n'entend pas parler, et où il y a un nombre de victimes très très important. Donc je pense que ça définit notre identité. Mais je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail parce que je crois qu'après on va parler de façon plus détaillée de ce qu'on fait.
Tout à fait. Et l'action que vous menez, c'est plutôt une aide ponctuelle. Enfin, je suppose que ce sont des aides ponctuelles, mais c'est dans le but de d'améliorer la société pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un but plus large que de d'aider telle ou telle personne, ce qui est déjà pas mal?
Oui, en fait, c'est vraiment d'aider les personnes les plus vulnérables qui vivent dans des endroits très difficiles d'accès, parce que je vous ai pas dit ça juste avant, mais ça fait partie vraiment de notre ADN, et de les aider à survivre à une crise très grave qu'ils traversent pour pouvoir ensuite reprendre le fil de leur vie et voilà, poursuivre sans nous.
Et vous avez parlé de la prière, de l'importance de la prière. Alors comment se vit autrement cette identité protestante, puisque vous êtes un mouvement protestant? Comment ça se vit, ce protestantisme?
Alors on se définit effectivement, on est membre de la Fédération protestante, mais on se définit plutôt comme mouvement chrétien, parce que tous ceux qui s'engagent avec nous sont pas exclusivement protestants. Et donc cette dimension se vit vraiment en interne, en équipe. Donc on parlait de la prière et de cette certitude qu'on n'est pas seul à porter les difficultés auxquelles on fait face, parce qu'on pourrait facilement être déprimé pour les personnes qui sont confrontées tous les jours à la souffrance et à la mort et à des situations vraiment dramatiques. Et bien de savoir qu'on peut faire face à ça et faire ce qu'on a à faire, en sachant que c'est pas nous de sauver le monde, que voilà, Jésus l'a fait pour nous, et qu'on doit simplement faire ce qui est à notre portée pour aider les personnes les plus démunies qui nous entourent.
Les responsables donc sont chrétiens, les militants pas forcément.
Non, donc en fait, dans nos équipes, il y a donc des équipiers internationaux qui s'engagent, et eux sont des personnes qui choisissent MEDER parce qu'il y a cette identité chrétienne. Et mais sur place, il y a énormément de personnel local, des Congolais au Congo, des Afghans en Afghanistan. Et eux, eh bien c'est différent. Ils s'engagent à MEDER pour un travail au sein d'une organisation où ils sont rémunérés pour leur travail. Et donc certains partagent les valeurs de MEDER, valeurs chrétiennes de MEDER. Et pour d'autres, c'est pas le cas. Dans tous les cas, même si on a cette identité chrétienne qui est forte, on respecte les principes humanitaires d'impartialité, de neutralité, d'humanité. Et ça veut dire qu'on vient en aide aux personnes avec comme seul critère leur niveau de besoin pour pouvoir apporter une aide qui soit éthique et efficace.
Mais vous ne demandez pas une carte de christianisme, de chrétienté aux gens que vous aidez.
Ah non, non, bien sûr. Il y a aucune. Le seul critère qui est pris en compte dans le choix des personnes qui y sont aidées, c'est leur niveau de vulnérabilité. Donc, voilà. En dehors de ça, voilà, on vient en aide à des personnes qui ont des arrière-plans très différents et, voilà, des religions différentes. C'est pas important dans le choix des personnes qui sont aidées.
Alors, Annick Balocco, donc directrice de MEDER France, une association humanitaire, eh bien, on va faire la radioscopie de votre mouvement, on va rentrer dans le concret. Donc, votre action principale, c'est en contexte de crise, vous n'intervenez pas pour des situations qui sont ordinaires, si je peux dire.
Donc, on n'est pas dans des contextes de développement. Donc, on veut dire que dans le monde humanitaire, il y a l'urgence, la réhabilitation et le développement, c'est trois temps.
J'ai pas compris le deuxième.
La réhabilitation. D'accord. Et développement. Et ensuite, il y en a un quatrième aussi, c'est la préparation, la diminution des risques pour les prochaines, pour les pays qui sont en contexte de crise et les crises qui sont récurrentes. Donc nous, on intervient sur le volet urgence, réhabilitation, donc urgence, reconstruction. Et on a aussi le volet préparation aux urgences, réduction des risques. Ça veut dire dans des pays qui sont, par exemple, comme le Madagascar, qui sont frappés chaque année par des cyclones, eh bien de pouvoir sensibiliser les communautés à avoir les bons gestes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un cyclone qui arrive? ou ça veut dire dans un pays comme l'Afghanistan, où il y a beaucoup de fréquents inondations, glissements de terrain, réaménager les sols pour éviter les prochains glissements de terrain. Donc il y a cette partie aussi, préparation des communautés pour qu'elles soient moins vulnérables aux catastrophes quand elles arriveront.
Alors il y a les risques naturels, vous venez d'en parler, il y a les risques politiques, je suppose, avec les conflits, les guerres.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, on intervient dans des pays qui sont touchés par des crises naturelles, et effectivement dans d'autres pays qui sont touchés par des conflits. Et puis le troisième cadre, ce sont des pays qui sont touchés par exemple par des épidémies. Ebola, il y a quelques années, Mpox au Congo. C'est un peu les différents types de contextes dans lesquels on intervient.
Dans les contextes de guerre, vous avez les infrastructures pour vous aider, pour vous sauvegarder, parce que le but, c'est de quand même préserver vos militants et vos travailleurs. Comment ça se passe?
Mais c'est vrai que dans tous nos programmes, il y a une dimension sécurité qui est très forte. Et donc, on a toujours une personne qui est en charge de la sécurité pour voir si les équipes peuvent se déplacer à tel endroit comme prévu. Il y a des check-ins qui sont faits. Il y a tous des protocoles de sécurité. Moi, j'étais au Yémen l'année dernière dans un contexte très compliqué, mais il y avait des protocoles de sécurité qui étaient tels que, en fait, voilà, on voit que tout est fait et qu'on peut travailler en se sentant en sécurité, même dans des contextes qui ne sont pas faciles et dans des pays où on sent que ça va être difficile.
Et les pouvoirs publics français vous aident
Oui, tout à fait. Donc, on est soutenu par le ministère des Affaires étrangères et aussi par d'autres collectivités.
Et l'identité protestante de votre structure, elle vous aide ou elle vous a fermé des portes?
Non, en fait, non au deuxième.
Oui, je me doute.
À la deuxième question, elle nous aide parce que oui, il y a des personnes qui sont contentes de soutenir une organisation chrétienne qui intervient dans ce type de contexte humanitaire grave. Donc, ils sont contents de soutenir une organisation qui porte leurs valeurs. Et la deuxième question, non, ça ne nous ferme pas de porte parce que on est très clair sur le fait que ce sont des valeurs qui animent les équipes, mais qu'après, l'aide est respectueuse des principes humanitaires. Donc, à partir du moment où ça, c'est très clair, il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose qui nous ferme des portes.
Alors, on va passer à vos défis, vos projets. Quels sont vos plus grands défis en dehors de la situation internationale des cataclysmes qui tombent, mais les défis auxquels vous êtes structurellement confrontés?
Donc MEDER a été créé pour n'intervenir que dans des contextes de défis et de difficultés, en fait, et donc d'essayer d'avoir l'agilité pour travailler dans des contextes de très, très difficiles. Mais actuellement, on vit un temps qui est très, très difficile. C'est vraiment une période charnière dans le monde humanitaire dont tout le monde n'a pas forcément conscience. C'est le fait qu'après des décennies où la solidarité internationale a été soutenue par beaucoup d'États, et ce qui fait, c'est que les ONG faisaient beaucoup de choses, avaient des moyens d'agir et menaient des programmes de grande ampleur. Cette année et déjà l'année dernière, on fait face à une situation où les financements institutionnels s'effondrent. Les financements français ont diminué de 35%. On a entendu parler des financements américains aussi, qui étaient USAID, qui était le plus gros financeur de la solidarité internationale.
Vous pouvez répéter le
USAID.
Ah, USAID.
Voilà. D'accord. C'est un partenaire qui a permis de faire énormément de choses. Donc maintenant, on est un peu dans une situation difficile. Beaucoup d'ONG se retrouvent en situation difficile parce que les financements donc se réduisent. Mais on peut aussi dire que il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé grâce à ces financements. Voilà. Donc malgré tout, la réalité aujourd'hui, c'est donc les financements de l'ensemble des pays institutionnels s'arrêtent. Enfin, diminue ou s'arrête, Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de programmes menés par différentes ONG qui s'arrêtent dans différents pays et qu'on voit donc une explosion des besoins. Donc la question, le défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour que ce soit plus connu et qu'est-ce que vont faire les chrétiens dans ce contexte? Parce que historiquement, si on remonte très loin, souvent les chrétiens ont été les premiers à se mobiliser, à permettre le lancement d'hôpitaux. Enfin, de nombreuses choses, de nombreuses initiatives sont venues, sont nées parmi les chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait face à une situation grave dans le monde? Voilà.
Je suppose que la baisse des financements impacte surtout la reconstruction et la préparation pour éviter d'autres cataclysmes.
Non, pas, enfin, entre autres, effectivement, c'est moins prioritaire, cette partie préparation, mais il y a aussi de nombreux centres de santé, programmes nutritionnels. Par exemple, en Afghanistan, il y a 360 centres de santé qui ont fermé, 400 centres de nutrition. Donc, ça veut dire que ce sont des centaines de milliers de personnes qui n'ont plus accès aux soins. Un enfant, on a de beaucoup de programmes nutritionnels et en fait, un enfant malnutri, pour qu'il sorte de la malnutrition, il lui faut 2 mois de traitement. Si au milieu de ces 2 mois de traitement, le centre de nutrition ferme, eh bien, il va pas pouvoir s'en remettre. Donc, on est vraiment sur des problématiques de vie et de mort pour un grand nombre de personnes dans beaucoup de pays.
Alors vous définissez une situation catastrophique, enfin très difficile, à cause de la baisse des finances. Est-ce que par des projets vous pouvez compenser ou atténuer cette baisse de finances, enfin cette
Oui, donc nous on est reconnaissant parce que malgré tout, pour l'instant, on reste engagé dans la majeure partie des pays dans lesquels on est engagé. Donc on a un soutien qui nous est apporté, qui nous permet de continuer notre travail. Donc ça, c'est un sujet important de reconnaissance. Mais malgré tout, ça veut dire que les équipes qui restent en place, les centres de santé qu'on continue à faire tourner, eh bien, ils font face à des besoins croissants. Si les centres de santé aux alentours, ils sont fermés, eh bien, il y a beaucoup plus de monde qui vient dans les centres de santé qui restent ouverts. Et donc, ça met aussi beaucoup de pression sur les équipes parce qu'elles ne peuvent plus faire face à tous les besoins. Mais déjà, c'était une tendance lourde parce que ça faisait comme quelques années, en tout cas qu'au niveau des besoins, il y avait de plus en plus de personnes qui dépendaient de l'aide humanitaire pour survivre. Vous parliez des conflits tout à l'heure. Donc, c'était aussi lié au fait qu'il y ait des conflits qui durent. La guerre en Syrie qui a duré tellement longtemps, ou des situations compliquées comme le Congo. On est aussi dans l'est du Congo, l'Afghanistan. C'est des pays où il y a des crises qui durent et qui font que, quand il y a une nouvelle crise, eh bien, il y a une augmentation des besoins humanitaires dans le monde. En plus, pardon, on n'a pas parlé de tout l'impact climatique qui est aussi de plus en plus fort.
Vous n'avez pas envie de baisser les bras par moment en voyant que finalement vous intervenez et puis il y a tous ces cataclysmes qui tombent, toutes ces guerres, toutes ces situations et puis moins d'argent. Enfin, comment vous tenez le coup?
Eh bien, je pense on revient un peu au slogan chaque vie compte, dans le sens où effectivement on peut pas faire face à l'étendue des besoins. On n'a jamais pu faire face à l'étendue des besoins. Mais pour chaque personne qui est aidée, ça vaut le coup. Pour moi, lorsque j'ai la chance de pouvoir aller parfois sur le terrain dans les différents pays d'intervention, eh bien, chaque fois, on revient vraiment en se disant ça vaut le coup, même si c'est un contexte compliqué, ça vaut le coup parce que pour les enfants qui vont passer de la mort à la vie, c'est aussi simple que ça en fait. Ça vaut le coup d'essayer de faire notre maximum.
Et vos relations avec les autres ONG plus connues, comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, comment ça se passe?
Mais écoutez, on est en contact avec elles. Parfois, dans certains pays, on travaille ensemble, parce qu'il y a de plus en plus de consortiums d'ONG qui se mettent ensemble pour répondre à certaines situations. Donc, écoutez, à ma connaissance, ça se passe bien. On est aussi membre d'une coordination en France, coordination Sud, où elles sont, où on est ensemble dans les mêmes, voilà, dans la même coordination. Donc, on se connaît, et puis on se, voilà, je pense que MEDER a un peu l'image, parmi les autres ONG, d'aller dans des endroits impossibles. Ça ne veut pas dire que les autres font un travail, voilà, elles aussi, elles font un travail qui est difficile. Mais je parlais récemment avec quelqu'un qui était dans une autre ONG et qui disait « Ah ouais, MEDER, mais vous allez vraiment dans des endroits complètement fous, en fait. »
Ben, vous pouvez nous donner un exemple, nous raconter une visite dans un endroit impossible.
Oui, ben, je peux vous parler du Yémen dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le Yémen, c'est un programme qui a fermé, hélas. Là, c'est un programme qu'on a dû arrêter faute de financement. Mais on était dans des endroits extrêmement reculés. Donc au début, on roule des heures en 4x4 sur une route. Et puis après, on quitte la route, on a un petit chemin et on roule pendant des heures. Et on arrive après quelque part dans la montagne où là, il n'y a plus de chemin. Et on arrive dans des centres de santé donc qui sont extrêmement éloignés et où MEDER apportait des soins et permettait aussi la prise en charge par ambulance, enfin faire venir dans les hôpitaux les personnes qui étaient les plus gravement atteintes. Quand j'étais là-bas, on voyait qu'il y avait aucune autre organisation sur aucune autre ONG qui intervenait sur ces zones-là à des kilomètres à la ronde. Donc déjà, les personnes elles-mêmes devaient marcher plusieurs heures pour arriver au centre de santé. Voilà, c'est l'un des contextes extrêmement reculés. Donc là, on en est sorti, on en est parti, hélas. Mais c'est aussi le cas dans le sud de Madagascar, par exemple, où on intervient dans le Grand Sud. Et donc là, il faut aussi beaucoup d'heures de route pour arriver dans les endroits les plus reculés.
Et à votre avis, pourquoi vous allez là où les autres ne vont pas? C'est votre implication chrétienne qui vous bouge, qui vous...
En tout cas, c'est vraiment depuis l'origine de MEDER, ça fait plus de 35 ans, vraiment dans l'ADN de MEDER, d'essayer de venir en aide aux plus vulnérables. Et les plus vulnérables, eh bien, en général, c'est ceux qui sont dans des zones difficiles d'accès. Parce que dans ces zones difficiles d'accès, il n'y a pas d'infrastructure de soins. Voilà, tout est compliqué. Défi logistique pour acheminer le matériel, pour acheminer les équipes. Et ça fait partie depuis le départ... ça fait partie de notre ADN. Après, je veux pas dire que les autres ONG font
d'avoir ça. On a très bien compris.
Dans certains contextes, on est avec d'autres organisations aussi. Ça dépend des contextes. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de notre ADN. Il y avait un donateur qui est venu avec nous une fois visiter un programme et il a dit, voilà, que MEDER va pas seulement au bout de la route, mais va là où il y a pas de route, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise.
Vous faites partie de la Fédération protestante de France. À quoi ça vous sert? Enfin, qu'est-ce que vous apportez et qu'est-ce que vous en retirez?
Alors, oui, on fait partie de la Fédération protestante depuis quelques années. On est engagé dans le comité des urgences. On a été impliqué dans la réflexion en amont, enfin, lorsque ça s'est mis en place, donc depuis quelques années, et on est très content de cette initiative parce qu'elle permet de faire connaître l'engagement des organisations chrétiennes quand il y a une crise qui survient. Et puis nous, ça nous donne aussi, lorsqu'il y a des réunions de ce comité des urgences, ça nous donne l'occasion d'échanger avec les autres organisations qui sont aussi engagées dans ce comité des urgences et qui sont soutenues. Donc c'est vraiment un lieu intéressant d'échange et de connexion. Et on est reconnaissant pour le soutien qui est apporté lorsqu'il y a une crise qui survient dans le monde et que ce comité des urgences va essayer de trouver des soutiens financiers dans le protestantisme pour ensuite le distribuer aux associations qui en sont bénéficiaires. Il y a aussi ADRA, il peut y avoir une dizaine d'associations qui en sont bénéficiaires.
Donc, vous dites ce comité des urgences dont tu fais partie de la Fédération protestante. Et il y a combien de membres?
En fait, c'est un réseau informel. En fait, il y a un comité, je pense qu'on doit être une dizaine, enfin, je suis 8, 10 associations. Et lorsqu'une urgence survient, il y a un appel aux dons qui est lancé par le président de la Fédération protestante. Et ensuite, les personnes impliquées sur la crise peuvent présenter un projet pour demander un soutien financier. Et même d'autres organisations qui ne font pas partie du comité des urgences, si elles sont mobilisées sur la crise, elles peuvent aussi demander un soutien financier. Ensuite, il y a un petit comité dont on fait partie qui examine les différentes demandes qui sont faites, qui on en discute. Et au final, après, bien sûr, c'est un petit comité dans lequel on n'est pas qui va prendre la décision finale et qui va décider de l'affectation du partage des fonds disponibles entre les différentes structures qui en ont fait la demande. Et donc, pour vos auditeurs qui connaissent peut-être, ça s'appelle Solidarité Protestante. C'est donc une initiative qui est portée par la Fondation du Protestantisme. Et il y a des informations qui sont disponibles sur le site internet et des envois d'informations qui sont faits d'appels à la générosité quand une crise survient.
Alors c'est ce comité, donc Solidarité Protestante, qui va demander aux églises de contribuer, parce que si chaque association le fait, ça risque d'être un peu de... Il risque d'y avoir conflit, enfin conflit c'est peut-être un grand mot, mais il risque d'y avoir concurrence. Donc c'est ce comité qui gère l'appel aux financement des paroisses.
Voilà, tout à fait. Après, chaque association elle a aussi ses réseaux de soutien qu'elle va pouvoir mobiliser. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir aussi parler d'une voix lorsqu'il y a une crise majeure et d'encourager les paroisses à donner à Solidarité Protestante.
Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à la fédération, enfin, qu'est-ce que vous apportez à la Fédération Protestante de France?
Alors, ce qu'on peut apporter, c'est des témoignages de ce qu'on vit dans ces contextes, dans ces pays extrêmement difficiles. Donc, on est toujours heureux lorsqu'on a l'occasion de partager ce qu'on fait, d'expliquer ce qu'on fait et de pouvoir aussi parler dans les différentes églises qui le souhaitent. Donc, je pense qu'on vit quelque chose. On a une mission, un travail vraiment très très particulier dans des contextes dans lesquels beaucoup de personnes ne vont pas, parce que si on refaisait la liste, voilà, ce ne sont que des pays en conflit ou en crise grave. Donc, on peut vraiment apporter ce témoignage du fait qu'il est possible de faire quelque chose dans ces contextes, malgré tous les défis.
Eh bien, merci beaucoup, Annick Balouko, donc de MEDER, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice et qu'on peut trouver plus d'informations sur votre site internet, donc meder.org.
Tout à fait.
Eh bien, merci aussi à Benjamin Bourriès et à son équipe de production et à bientôt pour nos auditeurs pour découvrir une nouvelle facette de Protestants au pluriel.
Protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.